Bac FM, il est 10h33, merci de nous avoir choisis. On va reprendre un rendez-vous qui nous avait quand même pas mal manqué. On va parler cinéma comme tous les mercredis, ça fait un mois qu'on n'a pas parlé cinéma. Je vous présente qui m'accompagne pour cette émission dans quelques instants. Jingle.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.
Votre rendez-vous s'appelle Action. On a beaucoup de choses à voir ensemble après un mois d'absence. Et au casting de ce rendez-vous, eh bien Laetitia déjà. Salut Laetitia.
Salut Théo.
Ça va ?
Ah bah ouais, impeccable. On reprend Action là, c'est la pleine forme.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance hein, entre le printemps de Bourges où on n'était pas sur place en studio. Après, il y a eu tous les jours fériés avec tous ces ponts qui étaient même des fois des viaducs tellement ça durait de temps. Ça fait un mois qu'on n'a pas pu faire Action. Mais on est de retour avec une belle actu ciné avec ouais. Le plus bel événement mondial, bien sûr.
Le Festival de Cannes.
D'ailleurs, tu vas un petit peu nous emmener au Festival de Cannes avec ton film
ouais,
du Grenier.
Ouais, et même, je vais vous dire, on va même se faire un petit apéro avec des clapiotres.
Ah, ça j'adore. Et puis on va même un petit peu danser la bachata aussi, si je me trompe pas.
La carioca.
La carioca, pardon, la carioca, excuse-moi. J'ai fait une erreur. Alors, autre personne dans ce casting, Manuel aussi. D'habitude, il est en direct. Cette fois-ci, il n'a pas pu être en direct, mais il va bien sûr parler cinéma avec nous. On va commencer même dans quelques instants avec les infos. Il va évoquer un film qui est sorti au cinéma aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de sorties parce que actu chargé déjà avec le Festival de Cannes, mais il y a quand même de très belles choses à voir ensemble, et notamment le nouveau film de Quentin Dupieux, troisième film de 2024 pour Quentin Dupieux, qui a une actu très très chargée.
Très très prolifique, Quentin Dupieux.
Et ouais, carrément, il a parlé d'Ali, là, il va parler d'un deuxième acte, ça a fait l'ouverture du Festival de Cannes, bien sûr, et d'ailleurs on va parler de ce Festival de Cannes avec les infos dans quelques instants, tout de suite.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Et ouais, on va commencer ces infos, ces nouvelles qui sont bonnes avec Manuel, notre spécialiste cinéma sur Bac FM. Le cinéma en ce moment, eh bien c'est le Festival de Cannes, je le disais, qui a ouvert sa 77e édition hier. Une magnifique édition qui réunit des légendes américaines venues en force cette année, Manuel.
En effet, Théo, ce sont des paillettes sur la croisette, ça c'est clair, c'est normal, j'ai envie de dire, mais tout particulièrement pour cette 77e édition, puisque eh bien, aujourd'hui un légendaire habitué va monter les marches hors compétition. Il s'agit de George Miller, le créateur de la saga Mad Max. Il vient présenter son nouveau volet, c'est une avant-première mondiale, Furiosa, avec Anya Taylor-Joy, et puis il y a aussi Chris Hemsworth. Jeudi, eh bien, ça sera vraiment le Graal pour tous les cinéphiles du monde entier, puisqu'il débarque Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain, deux Palmes d'Or, on le rappelle, pour Conversation Secrète, c'était en 1974, et puis pour Apocalypse Now, c'était en 79. Alors, il va tenter d'emporter une troisième palme avec Megalopolis, un film d'anticipation, avec vraiment un casting de stars époustouflant, Adam Driver, Kate Blanchett, Forrest Whitaker, il y a aussi John Voight, Michelle Pfeiffer, Jessica Lange. Donc une montée des marches tout à fait mémorable. 85 ans, Francis Ford Coppola qui prend le risque de la compétition. Il a même hypothéqué ses propriétés et ses vignes pour financer ce film tout à fait ovni, puisque le budget de ce long métrage atteint quand même les 100 millions de dollars. Et puis les Américains à Cannes, c'est, je vous le disais, un sacré débarquement. C'est parfois une affaire de famille, puisqu'il y a le neveu de Coppola, Nicolas Cage, 60 ans, qui vient présenter vendredi en séance de minuit The Surfer, un film qui dresse le portrait d'un d'un personnage plutôt querelleur. Et puis Khan ressemblera dimanche prochain donc à une espèce d'immense western, puisque Kevin Costner, star, rappelons-nous de Danse avec les loups, il a 69 ans et il vient présenter un projet titanesque qui racontait la conquête de l'Ouest en 4 volets de 3 heures avec Horizon, un film qu'il a réalisé, qu'il interprète et dont il va montrer le premier opus hors compétition ici au Festival de Cannes, sans oublier la présence bien sûr également de George Lucas pour la clôture le samedi 25. Il lui sera remis une palme d'honneur pour le créateur de la saga Star Wars.
Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette 77e édition du Festival de Cannes. Il y a beaucoup d'autres choses aussi hein, qui vont arriver. Il y a notamment la montée des marches d'Artus pour son film Un petit truc en plus. On va en parler d'ailleurs de ce film dans quelques instants. Et puis l'actualité du Festival de Cannes, on en parlera tout au long de cette semaine dans les infos à 13h. On va parler de l'ouverture, d'ailleurs de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu hier, avec d'ailleurs une Camille Cotin immense, avec Zao Tsagazan d'ailleurs aussi qui était présente. Je ne sais pas si tu l'as regardé, Letty, la cérémonie d'ouverture.
Alors je ne l'ai pas regardé et je regrette parce que j'aime beaucoup Camille Cotin.
Ouais, génial, avec un discours bien sûr où elle a évoqué MeToo. On va en revenir dessus dans les infos de 13h. Manuel évoquait Megalopolis, je sais pas si tu t'es un petit peu renseigné sur ce film.
Alors j'en ai entendu parler très 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 vite fait.
Ouais, Francis Ford Coppola, très attendu sur ce film.
Ouais, bah Coppola en plus quoi, ouais. Auteur de quelques chefs-d'œuvre. Alors moi mon préféré chez Coppola, c'est Dracula.
D'accord, ah il y a Conversation Secrète qui est pas mal aussi. Hein.
Ouais, alors c'est moins dans ma cam, mais
univers,
après
ouais.
J'imagine, voilà. Mais il avait livré un Dracula absolument magistral, Coppola.
Et donc ouais, il est très attendu hein, sur ce film. Manuel le disait, il a hypothéqué ses maisons, il a vendu ses vignobles aussi. Alors il y a une anecdote assez marrante sur ses vignobles justement, c'est que, alors c'est un petit peu une anecdote perso, mais qui rejoint ça. J'ai eu à mon anniversaire quelque chose qui s'appelle mon petit ballon de vin.
D'accord.
Et en gros, c'est mes potes, ils m'ont offert ça, et tous les mois, je reçois 2 bouteilles de vin. Donc j'ai dû rentrer un petit peu ce que j'aimais. Voilà, et comme vin, etc. et tout, et je reçois 2 bouteilles un petit peu, voilà, surprise. Et le thème, c'est vin de star. Et mes premières bouteilles que j'ai eues, il y a une bouteille de vin rouge dedans, californien, qui vient des vignobles de Francis Ford
D'accord.
Coppola. Le vin est pas ouf. Voilà.
Bah écoute, voilà, c'est du vin californien. Alors, ouais. Paraît-il qu'ils ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années au niveau de leur vignoble.
Voilà.
Mais voilà, c'est quand même assez spécifique.
Ouais, c'est pas de ouf. Mais bon, voilà, c'est assez anecdotique du coup pour l'occasion. Et d'ailleurs, il a vendu, Manuel l'a pas dit, mais il a vendu ses vignobles. Il a vendu ça pour avoir une somme assez conséquente qui vient de lui sur ce film qui a coûté très cher parce qu'il voulait une liberté totale de création. Ce film, Megalopolis, il a commencé à l'écrire en 75, je crois, 76. Il avait commencé de le tourner, mais les attentats du 11 septembre ont fait qu'il n'a pas pu continuer le tournage. Il a repris le tournage ensuite parce que le financement était compliqué. Enfin, c'est vraiment, pour lui, c'est le film un petit peu de sa vie.
Ouais,
en fait.
C'est un peu une épopée, en fait.
Ouais,
hein.
C'est ça, exactement. C'est une épopée romaine au cœur de New York, d'ailleurs, ce film. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler mercredi prochain, ou mercredi d'après. Je sais plus quand est-ce qu'il sort en France, mais ça arrive là à grands pas, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans Action. Je voulais revenir aussi, moi, à travers ces infos sur un succès français. On critique assez le cinéma français et plus particulièrement les comédies pour saluer eh bien, les belles réussites et d'autant plus quand c'est risqué. Et c'est le cas avec Artus qui signe son premier film. Ça s'appelle Un petit truc en plus. Il est réalisateur de ce film. Une comédie feel good qui aborde le handicap mental dans un esprit relativement potache et bienveillant. Bande annonce et on en parle juste après.
On est en vacances ou on n'est pas en vacances?
Allez, on se casse! Allez!
Merde, il n'y avait plus la bagnole.
Tu t'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi?
T'as des nouvelles du nouveau?
Sylvain?
Ouais.
J'ai eu ses parents, là, il arrive.
Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi?
Allez. Je vous présente Sylvain, les copains!
Bon, on peut y aller, là.
Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur?
Fils de pute!
Bon, on fait quoi, du coup? T'es comme eux, là.
Alors.
C'est trop, j'essaie de trouver le truc, je vais trouver le juste milieu.
On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente.
Très, très, très proche, hein.
Frères et sœurs, jour et nuit.
Allez, va.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
T'es pas handicapé?
Si, si, tu veux pas handicapé, moi.
Ça me voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein?
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui, Ludovic?
C'est ma petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches?
Pardon?
C'est que le passé, c'est le passé, mais il y a qu'à toi que je peux me confier.
Remonte.
Pourquoi ils nous regardent, les gens?
Oh, les femmes!
On vous emmène!
Et ça fait clic, 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 ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduite.
Oh là là, oh putain, Marie.
C'est parti droit dans sa gueule.
C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps.
Après un démarrage record et le cap du million d'entrées en salle en moins d'une semaine, le film a passé ce lundi un nouveau seuil, celui des 2 millions d'entrées. Des entrées qui continuent de monter, c'est mérité car c'est un vrai joli film et qui traite d'un sujet qui est relativement risqué quand même, mais c'est très très bien fait.
Ouais, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il a fait ça sans que ce soit larmoyant, sans que ce soit...
Exactement.
Voilà.
En fait, Artus, il a beaucoup parlé du handicap dans des sketchs, parce que de base il fait de la scène, Artus, dans des vidéos aussi sur ses réseaux sociaux, et il y a pas mal de fois où il s'est un petit peu fait taper sur les doigts en disant oui, faut pas se moquer, etc. Et lui disait, mais en fait, le fait d'en rire, ça fait qu'on les considère comme tout le monde, ce qui est normal en fait. Donc il faut en rire, justement, on rigole de tout le monde, pourquoi on rigolerait pas d'eux, quoi? Et je pense que ce film, ça lui permet aussi de remettre les pendules à l'heure en disant voilà, je me suis jamais moqué, je l'ai jamais fait méchamment et je vous le prouve à travers ce film. Et vraiment, moi je suis allé le voir, je crois que c'était mercredi ou jeudi dernier, et vraiment, enfin, ça a été une claque, vraiment. C'est un très beau film avec un très beau fond, c'est très drôle et c'est vraiment réussi. Et les acteurs, ils sont vraiment, faut les voir, hein, les acteurs.
En plus, je crois que Artus, il a écrit vraiment en fonction de chaque acteur. Hein.
Ouais, exactement. En fait, il a écrit un fil conducteur pour son film avec des idées, et après, il a casté tout un tas d'acteurs donc qui sont porteurs de handicap. Et il a, par exemple, je sais pas, j'ai pas envie de vous parler de spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu, mais par exemple il y a dedans une personne qui est toujours déguisée. Et bien ça, c'est pas, on pourrait dire, enfin, il y a pas d'intérêt dans le film, mais en fait c'est juste que cette personne là dans la vraie vie aime se déguiser tous les jours, voilà.
Et j'ai entendu, il était invité dans l'émission de Léa Salamé dans Quelle époque, et il a dit mais les costumes voilà qu'on voit dans le film, c'est vraiment
c'est les siens
c'est quoi, voilà, c'est pas
c'est ça.
Et d'ailleurs dans cette émission il y avait Jean-Marie Poiré qui était invité le même jour, et c'est marrant parce qu'il lui avait prédit un énorme succès pour ce film. D'après une anecdote, parce qu'Artus avait joué quelques temps plus tôt au casino, il avait gagné un petit peu de sous, et Poiré lui avait dit que avant la sortie, alors je sais plus de quel film, peut-être bien des Visiteurs, il avait lui aussi été au casino, il avait gagné une petite somme et ça lui avait porté chance.
Mais en plus c'est une belle revanche, parce que tu vois, ce film-là, personne voulait vraiment l'aider, Artus. Tout le monde lui a dit ouais, un film avec des handicapés, ça va jamais marcher. Au final, il a dû se débrouiller pareil pour les financements, un petit peu à la Francis Ford Coppola, mais dans un budget qui est totalement autre. Et au final, ça marche. Et du coup, je trouve que c'est une belle revanche. D'ailleurs, du coup, le réalisateur Artus et les acteurs porteurs de ce handicap, eh bien, ils vont monter les marches du Festival de Cannes mercredi prochain. Ça aussi, c'est génial. Il y a un petit couac dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune marque de luxe qui a voulu prêter de vêtements aux porteurs de handicap pour monter les marches. Je sais pas si ce problème a été résolu. Il s'en est plein sur France Inter il y a pas longtemps, Artus.
Ouais, ça c'est un petit peu honteux quand même.
Bah ouais, c'est quand même pas ouf. Et Artus d'ailleurs qui a porté la flamme olympique avec un acteur du film Porteur de handicap. C'était l'occasion d'encourager aussi pour lui les gens à prendre des places aux Jeux paralympiques qui se déroulent du 28 août au 8 septembre. On le rappelle. Un petit truc en plus, c'est encore dispo au ciné Mazarin. Si vous n'y êtes pas déjà allé, bien je vous conseille de vite le faire. Ça va rester encore, je pense, au moins 2 semaines. Parce que c'est un film qui marche très bien, tout le monde peut y aller, vraiment je conseille d'y aller en famille, parce que c'est vraiment pour toute la famille ce film, vraiment. On va justement regarder les films aussi qui rejoignent la programmation de votre cinéma à Nevers avec les sorties génériques.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ouais, alors je le disais, il n'y a pas énormément de nouveaux films, ni de nouveaux films vraiment tête d'affiche cette nouvelle semaine, parce que Festival de Cannes et toute la profession du cinéma est à Cannes, mais il y a quand même des petits coups d'œil et des petites surprises à aller voir. Il y en a 4 d'ailleurs des nouveaux films cette semaine au ciné Mazarin. Et on commence avec un film qui nous transporte dans une histoire poignante et surtout authentique, au cœur des défis de l'adolescence et dans un contexte social difficile, mais qui parle quand même à beaucoup, surtout dans le coin, vous allez comprendre. Les 3 Fantastiques Fantastiques, c'est le nom de ce film. Et les trois fantastiques, eh bien, c'est Max, Vivian et Tom. Ils ont 13 ans et ils sont inséparables. Ils vivent un début d'été plein de bouleversements avec la fermeture de leur dernière usine de la ville, en même temps que Seb, le grand frère de Max qui sort de prison. Ces combines, elles vont peu à peu entraîner les trois adolescents dans une chute qui paraît inéluctable. Bande annonce.
C'est qui les trois fantastiques?
Bah, c'est nous trois.
Allez, accélère, vive, il arrive!
Attendez-moi là, c'est bon!
Oh putain!
Oh comment il est chiant!
Ok.
Allez mon Tommy!
Allez!
Vas-y Tommy!
Allez, c'est bon!
Allez! Ah oh Tom! Tu sais ce qui me fait pédaler aussi vite? Je pense à ta mère! Cours Tommy, cours!
Seb.
Oh, je merde. Qu'est-ce
qu'il a? Je pensais que t'en avais encore pour 6 mois.
T'es merdeux, j'ai un service à te demander. J'ai laissé un sac dans la forêt, faudrait que je le récupère.
Arrête, Seb. J'ai pas envie que tu retournes en prison.
T'inquiète, c'est fini. Tu prends le sac, tu me le ramènes, c'est tout.
Et tu comptes en faire quoi?
Hier soir, t'es allé où?
Vous faites quoi, putain?
Tu veux finir comme ton frère, c'est ça?
Si je te trouve de l'argent, ils vont te laisser tranquille?
Faut que tu me fasses confiance.
Qu'est-ce que t'as encore fait, Seb? Ça recommence là?
C'est qui le grand frère de qui?
Les trois fantastiques.
Il n'y a pas plus fort que la famille, frère.
J'avais oublié cette dernière réplique.
Oui, attends, laisse-le finir.
Les trois fantastiques, c'est de jeunes acteurs qui sont très prometteurs et qui sont entourés d'Emmanuel Berco et Raphaël Quénard. C'est dispo au cinéma Zarin depuis aujourd'hui. Raphaël Quénard affiche de 2 films d'ailleurs cette semaine. L'autre, c'est le dernier Dupieux. Emmanuel nous en parle tout à l'heure. On va en attendant se cacher sous la couette et attendre tranquillement que ça passe, car Laetitia va nous donner les frissons avec le dernier horreur sorti en salle aujourd'hui. Les peureux seront les intrus en salle. Bande annonce. On en parle juste après.
Tu sais quel jour on est?
C'est le dernier jour de notre road trip de 3 jours à travers le
pays.
Ou
notre 5e anniversaire. Oh, c'est trop mignon. Franchement, je préfère tellement ça à un hôtel. Je parie que les gens qui vivent ici sont super heureux.
Top l'accueil, hein?
Tu entends?
Quoi?
Le silence, ça fait du bien. Tamara est là?
Non.
Je crois que tu t'es trompé de maison. Tu manges vraiment comme un cochon.
La porte!
Vous êtes là.
Ah ouais, ça crie, hein, les intrus. Alors, c'est les intrus, c'est l'histoire d'un road trip en amoureux qui tourne mal, en fait, pour la faire courte. C'est l'histoire d'un couple. On a Maya, qui est jouée par Madeleine Pitt. Patch, elle est connue, elle, pour être la Cheryl Blossom de la série Riverdale.
Yes.
Et avec son petit ami Ryan, donc Maya, hein, pas Madeleine Patch, eh bien, ils vont décider de démarrer une nouvelle vie sur la côte ouest des États-Unis. Mais y a un long trajet pour s'y rendre et leur voiture, elle va tomber en panne dans un coin reclus de l'Oregon. Et ça va les obliger à passer la nuit dans un Airbnb un petit peu isolé.
Ça, c'est un petit peu le truc un peu vu et revu, non?
Ouais, sauf que le Airbnb, voilà, c'est un petit peu à la mode en ce moment.
Ouais.
Mais oui, oui, voilà, la voiture qui tombe en panne, c'est déjà un peu le cas, par exemple, dans les années 70, avec Massacre à la tronçonneuse, hein, donc tu vois, ça date pas d'hier. Bon, en tout cas, ils le savent pas encore, mais dans ce Airbnb, ils vont vivre une nuit de terreur durant laquelle ils vont être pris pour cible par trois individus masqués qui veulent les tuer sans motif apparent. Alors, pour info, le film, il a été réalisé par Rémi Harlin, et c'est à la fois, alors attention, ça devient un peu compliqué, ce film, c'est à la fois le troisième opus de la série The Stranger, qui avait été débuté en 2008.
D'accord.
Et c'est aussi le premier volet d'une trilogie qui va se dérouler dans la continuité des deux premiers films. Voilà, donc ça c'est le truc un peu complexe.
Ouais, là où c'est un peu là où il faut faire un schéma avant d'y aller.
Oui, mais je pense que le film lui est plutôt simplé.
Ouais,
Parce que bon, au premier abord, ça a pas l'air foufou, mais après, je peux me tromper, donc à voir. Hein, c'est déjà arrivé que voilà, je sous-estime un film. En tout cas, hein, comme je disais, les Airbnb en ce moment, ça inspire pas mal le cinéma d'horreur, mais aussi les fans du genre. Y a qu'à voir l'énorme succès en ce moment du film Barbarian sur Netflix.
Ah ouais, d'accord. Ok, c'est une nouvelle sortie horreur.
Alors c'est un film qui a dû sortir en 2021 ou 2022, je crois, qui est sorti directement sur les plateformes, directement sur Disney+, où il avait déjà connu un petit succès, et là depuis qu'il est arrivé sur Netflix, ça fait partie du top des films en ce moment.
Mais c'est souvent ça, d'ailleurs, que Netflix relance des films un petit peu. Alors attention, on va faire un saut, mais ils ont ressorti. Oh, je vais encore passer pour un guignol, mais ils ont sorti tous les Fantomas.
Mais ça cartonne, n'empêche, ça fait partie des meilleurs.
Mais oui, fait partie des top films.
Des top films, ouais.
Ouais, ouais. Donc pourquoi
avec,
pas
avec un film aussi, dans un tout autre genre, film aussi qui a connu le succès grâce à Netflix, c'est Le Garçon au pyjama rayé.
Ah oui, oui aussi.
Alors, on est dans un autre, dans un genre totalement différent. Mais c'est un film qui était totalement passé inaperçu à l'époque de sa sortie, date de 2008, je crois. Et c'est un gros carton sur Netflix qui est en plus mérité, quoi.
Donc en attendant, on peut toujours aller voir Les Intrus.
On peut aller voir Les Intrus, ouais.
Et se faire son propre avis. Alors, par contre, on a bien compris que ce film n'était pas pour les plus jeunes.
Hein, non, là, à partir de quel âge? Peut-être, je sais pas si c'est 12 ou 16 ans, mais voilà.
Pas non plus emmener les famille. Plus jeunes. Ouais.
Les ados, éventuellement.
En revanche, pour les plus jeunes, j'ai quelque chose. La projection premier ciné, comme son nom l'indique, eh bien c'est pour les premières fois au cinéma, ça rime, et c'est Le Rêve de Sam qui est proposé cette semaine, une compilation de 4 courts-métrages. Ça dure 41 minutes en tout et c'est très bien pour les plus petits. Et puis pour les un petit peu plus grands, il y a une belle proposition jeunesse aussi. Un papa super-héros, super cool, une mamie déjantée et une jeune fille déterminée, bande-annonce.
Lui, c'est Super Léon. Son identité est top secrète. Personne ne sait qui c'est dans la vraie vie. Personne, sauf moi, parce que c'est mon père. Et la prochaine, ce sera moi. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce live.
Si tu veux avoir ne serait-ce qu'une petite chance de devenir Super Léon, tu ne peux pas passer ta vie devant un écran.
Je lui montrerai que j'en suis capable. Mamie, tu dois m'aider. Tu sais te servir du costume. Est-ce que tu peux m'apprendre?
Dis-moi quand tu veux commencer. Qu'est-ce qui te passionne, toi?
Ben, le gaming.
Le gaming? Je crois que tu as trouvé ton super pouvoir.
Ta mère m'a toujours dit que tu me surprendrais si seulement je t'en donnais la chance.
Tu m'as jamais dit que t'avais ton permis moto?
C'est parce que je l'ai pas!
Super Léon, c'est la proposition jeunesse de cette semaine et c'est dispo dès maintenant au ciné Mazarin. Manuel revient dans quelques instants pour nous présenter le dernier film à l'affiche et pas des moindres, car c'était le film d'ouverture à Cannes hier. On va continuer d'évoquer Cannes avec une liste de films diffusés exceptionnellement Mazarin cette semaine. Et puis on terminera aussi évidemment avec le film du grenier de Letty, pas nul du tout, de Les Nuls. Juste après quoi, Letty, qu'est-ce qu'on s'écoute?
Eh bien écoute, on va écouter Youngblood. Et pourquoi on va écouter Youngblood? Parce qu'il a fait une très belle reprise de I Was Made For Loving You de Kiss pour une bonne occasion, c'est pour l'occasion The Fall Guy, très très bon film d'action et d'humour qui cartonne aussi en ce moment.
Avec Ryan Gosling, c'est en ce moment au ciné Mazarin. On revient juste après.
Made for loving you, baby. You were made for loving me. to you in the darkness. There's so much I wanna do. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. I can give it all to you, baby. Can you give it all to me?
C'était Youngblood, une très belle reprise de Kiss. C'était à l'occasion du film Fall Guy avec Ryan Gosling qui joue un cascadeur. Et ça rappelle un petit peu un de ses premiers films, Drive,
oui,
qui était présenté au Festival de Cannes. On va avoir l'occasion d'en reparler, Drive, dans quelques instants. Bienvenue, vous écoutez Back FM. Si vous nous rejoignez, je m'appelle Théo, je suis avec Letty qui est encore là. Du coup,
on je suis là.
On parle cinéma dans Action, c'est votre rendez-vous tous les mercredis matin. Les infos ciné, les sorties ciné de la semaine. Et il nous en reste une à voir, justement. C'est notre intervenant Manuel qui essaye de comprendre l'univers totalement loufoque de Quentin Dupieux, c'est pas facile. Le deuxième acte, un film qui met sous les feux des projecteurs, et bien le cinéma et les acteurs.
Le film sort en salle de manière instantanée, en même temps que sa présentation hier soir, donc au Festival de Cannes, hein, pour l'ouverture de cette 77e édition. Alors, c'est l'histoire, en fait, d'un film dans le film, c'est une mise en abîme, puisque ce long métrage, le deuxième acte, donc, raconte l'histoire de plusieurs personnages. Voilà, il y a les acteurs Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, il y a même Raphaël Quenard, qui vont jouer des personnages avec d'autres prénoms, mais qui jouent eux-mêmes des personnages qui portent les mêmes prénoms qu'eux dans cette comédie. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien suivi.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein.
Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus, et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons.
N'importe quoi, non mais écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons.
Non mais sans déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout.
En fait, il y a une dimension, comme souvent chez Dupieux, extrêmement inventive, puisque ces personnages vont se mettre à se décaler et à déraper aussi parfois. Par exemple, le personnage de Willy qui se met à improviser, il demande à David si Florence, la copine qui lui demande de draguer à sa place, est un travelot. Donc voilà le dérapage. Donc il y a David qui lui dit « Mais non, mais en fait, tu peux pas dire ça. Alors, tu vas pas me dire qu'elle est handicapée. » Donc, surenchérit Willy. Et puis David lui dit « Non, mais tu veux qu'on se fasse cancel. » C'est-à-dire, qu'on se fasse détruire, annuler. Moi, j'ai envie de continuer à bosser. Et c'est vrai que dans cette période où la liste des 10 qui est parue sur les réseaux sociaux et qui fait état d'acteurs, de personnalités du 7e art qui auraient dérapé au travers d'agressions sexuelles, tout cela dans une rumeur et dans une effervescence qui a conduit le festival à se doter de coachs juridiques et de conseils pour parer à toute éventualité. Donc le film sort à point nommé dans ce contexte, avec ce casting impressionnant. Et puis c'est un scénario malin, comme souvent chez Quentin Dupieux, beaucoup d'autodérision et un film totalement jubilatoire dont je ne peux pas vous dire plus, si ce n'est que il brasse des sujets éminemment d'actualité, et on pourrait même dire d'une actualité brûlante, mon cher Théo.
Ouais, l'équipe du film de Quentin Dupieux qui était au Festival de Cannes hier, qui a monté les marges donc, car le film était présenté. Alors Manuel est revenu un petit peu sur cette affaire MeToo et les 10 noms qui ont circulé. J'ai pas envie de revenir trop dessus ni de parler de ces noms-là parce que ce ne sont que des rumeurs et pour l'instant il n'y a rien de fondé. Il y a une de ces personnes qui s'est déjà défendue, qui a été interviewée en plateau, on va le dire, c'est Raphaël Quenard, qui était l'invité de Mouloud Achour hier dans Click. C'était une émission enregistrée, bien sûr, bon bref. Et du coup, ils ont évoqué cette chose-là, il s'est défendu. Voilà, je vous invite à aller le voir si vous avez envie d'aller le voir. Je vous invite à ne pas le voir si vous n'avez pas envie de le voir. Pour l'instant, on ne va pas en parler car il n'y a rien de très précis dans tout ça. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. En revanche, le deuxième acte, ça c'est pas une rumeur, c'est dispo au Ciné Mazarin avec plusieurs projections dès aujourd'hui. Et la première d'ailleurs, elle a lieu tout à l'heure à 14h. Le Ciné Mazarin qui vous propose également une avant-première exceptionnelle mardi prochain avec Furiosa, on en a parlé. Anna Taylor-Joy, nouvelle mad icône pour cette saga Mad Max où elle joue le rôle donc de Furiosa qui va tomber entre les mains de motards dirigés par le seigneur de la guerre Démentus. Anna Taylor-Joy, c'est elle qui joue le jeu de la dame, cette série Netflix sur les échecs. Et la voilà ici donc dans un film qui va bousculer le monde de la science-fiction cette année. On en reparle évidemment mercredi. De la comédie française également avec Macbeth, 2h30 de comédie française à travers l'histoire de trois sorcières qui président à Macbeth, qui prédisent à Macbeth l'accession au trône d'Écosse. Pour réaliser cette prophétie, Lady Macbeth convainc son époux d'assassiner le roi Duncan venu passer la nuit chez eux. Ce crime va entraîner le nouveau souverain dans une spirale macabre qui le fera sombrer dans la culpabilité et la folie. Voilà. Et puis le Festival de Cannes permet aussi au Ciné Mazarin de vous proposer des films cultes. Rétro Ciné Cycle Cannes avec 8 films proposés sur une semaine et des horaires et jours variés. Alors ça, je vous laisse aller les voir sur internet. Il y a Drive, il y a Gatsby le Magnifique, La Grande Bellezza, Mommy, Old Boy, Parasite, The Artist, voilà les films qui sont proposés pour leur réussite, leur récompense et leur distinction lors d'une édition au Festival de Cannes. Letty, si tu devais conseiller revoir un de ces films, lequel ce serait ?
Mon choix, ce serait Old Boy, en fait, du réalisateur coréen Park Chan-wook. Il avait remporté le Grand Prix du jury en 2004, donc tu vois, ça fait tout juste 20 ans. C'est un film qui est porté par l'acteur, excellent acteur Choi Min-sik, et en fait, on suit l'histoire de Oh Da-soo. C'est un père de famille sans histoire, et un jour, il est enlevé devant chez lui, comme ça, sans raison. Il va se retrouver séquestré pendant des années, et il sait pas pourquoi. Son seul lien avec l'extérieur, c'est une télé, et par le biais de cette télé, il va apprendre non seulement le meurtre de sa femme, mais en plus que c'est lui qui est soupçonné d'en être le meurtrier. Voilà. Et puis 15 ans plus tard, il va être relâché. Alors toujours sans la moindre explication. Ouais. Et Oh Da-soo, il va partir en quête de vengeance, mais aussi de réponse. Et ce qu'il va découvrir, ça va être terrible. C'est vraiment le genre de film qui retourne le cerveau. C'est à la fois choquant, poisseux. C'est un film choc, passionnant, mais quand même à réserver à un public averti.
Moi, j'ai fait un petit peu le guignol parce que Old Boy, du coup, quand j'ai regardé, quand j'ai préparé l'émission, et j'ai vu Old Boy et je l'avais jamais vu ce film. Et j'ai dit, tiens, il faut que je le regarde. Et je suis tombé, alors ne vous faites pas avoir, pour les abonnés Prime Video, par exemple. Parce que, alors je vous invite bien évidemment à aller le voir au Ciné Mazarin, ce film. Mais pour ceux qui ne... Il n'y a pas énormément d'horaires, il n'y a que deux horaires par film. Donc des fois, c'est pas forcément simple. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas, il est dispo sur Prime Video. Et alors, il y en a deux. Quand vous tapez Old Boy, et donc moi j'ai pas fait attention, et j'ai tapé Old Boy et je suis tombé sur une version et j'ai dit donc c'est un film assez glauque, hein, à l'image de Old Boy, et j'ai dit, ah c'est bizarre quand même, pourquoi ce film a été si plébiscité à Cannes, parce qu'il a quand même, c'est pas mal, mais je sais pas, il a rien d'exceptionnel, alors oui effectivement il retourne le cerveau, c'est très psychologique, etc., mais... Et en fait, il y a deux versions. Il y a la version américaine qui est un remake de la version japonaise. La version américaine, c'est Spike Lee qui l'a fait. Donc, effectivement, quand vous allez sur Allociné, après, elle est beaucoup moins bien notée que la version japonaise.
Non, mais c'est... En fait, alors c'est pas rare, hein, que les Américains fassent des remakes du cinéma japonais,
voilà,
ou d'autres pays, d'ailleurs. En général, ils pourraient très bien... C'est des versions qui sont tout à fait... Alors là, la différence entre la version coréenne et la version américaine, c'est que la version américaine est choquante aussi, mais pas pareil.
Ouais.
Si tu veux, on est plus dans du rentre-dedans, c'est un petit peu moins subtil, je trouve.
Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. On va retrouver Manuel une dernière fois. Je lui ai demandé, justement, quel film, lui, il conseillerait, il aurait voulu revoir. Et il a décidé de nous emmener en Italie.
Bien, j'ai choisi le film italien de Paolo Sorrentino qui est sorti le 22 mai 2013 en salle. Voilà, ça fait donc plus de 10 ans. Ça s'appelle La Grande Bellezza et qui raconte à Rome, dans la splendeur de l'été, eh bien, le destin de Giuseppe Gambardella. C'est un journaliste donc littéraire à succès, séducteur. Il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui a valu un prix littéraire. Et depuis, eh bien, il affiche une attitude cynique et désabusée. Il pose un regard d'une amère lucidité sur ce monde romain, sur le monde qui l'entoure. Et dans le rôle principal de Giuseppe Gambardella, c'est le grand acteur italien. Mais j'ai envie de dire peut-être l'un des meilleurs acteurs au monde. Il s'agit donc de cet acteur magnifique que je chéris parmi tous les acteurs. Il s'agit donc de Tony Servillo. Tony Servillo, en plus, qui est un acteur qui joue exclusivement au théâtre et qui consacre uniquement les mois d'été à tourner au cinéma. Et donc, il a 2 mois lorsque le théâtre fait relâche pour donc monter sur les planches. Donc, il est un Giuseppe Gambardella absolument époustouflant. Et voilà, on voit tout le cinéma de Paolo Sorrentino dans sa flamboyance, dans sa virtuosité. C'est un hommage aux grands maîtres du cinéma italien. Je pense à Visconti, je pense à Fellini. Sans oublier aussi parfois une petite pointe de Dino Rizzi pour la dimension de comédie également noire qui fait réfléchir bien sûr sur l'état du monde et sur le chaos voilà qui est à nos portes. Film très brillant que je vous recommande très chaudement, mon cher Théo.
Et ça s'appelle La Grande Bellezza, c'est à retrouver au Ciné Mazarin. Il y a 2 projections cette semaine, je vous invite à aller les voir sur le site du Ciné Mazarin. Emmanuel, qu'on retrouve nous vendredi pour une recommandation cinématographique pour ce week-end de 3 jours d'ailleurs, Laetitia.
Ouais, super, en plus ça tombe pas un jour où il y a action, donc c'est parfait.
C'est vrai, mais il faut pas venir travailler lundi. Hein,
non, mais ça risque rien, t'inquiète.
si moi je devais vous conseiller un film à aller revoir.
Je voulais te demander, c'est quoi ton choix?
Vas-y, je te laisse me la poser hyper naturellement cette question, vas-y.
Et du coup, toi, Théo, ce serait quoi ton choix parmi cette liste de films?
Ah bah alors, tiens, vu que tu me demandes, et bah moi, ce serait Drive, voilà.
Avec Ryan Gosling.
Exactement, exactement. Pour ceux qui se rappellent pas ou qui ne connaissent pas, eh bien, c'est l'histoire d'un cascadeur relativement tranquille, anonyme même, qui est joué donc par Ryan Gosling, comme tu viens de le dire, qui se métamorphose dès que la nuit tombe. Il a un peu, il mène une double vie. La nuit, il devient pilote de voiture pour le compte de la mafia. C'est une combine qui est plutôt bien rodée, mais un jour, eh bien, il y a un casque qui va mal se passer et ça va entraîner une course-poursuite infernale. Et puis voilà, le film, c'est ça en fait. Hein, c'est une course-poursuite avec beaucoup de choses qui vont se passer. Et finalement, dans cette course-poursuite, c'est un super thriller noir que je vous conseille. Peut-être que je le ferai un jour en film du grenier.
Eh ben, écoute.
Pourquoi pas?
Et il y avait une super bande-son en plus hein, ouais. Qui accompagnait Drive, qui était signée du français Kavinsky.
Ouais, c'est vrai. Kavinsky, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas mon mot à dire pour le coup pour le film du grenier parce que c'est toi qui t'en occupes.
Laetitia. Oui, mais après, voilà, si jamais je peux te faire plaisir, on peut peut-être se caler Drive.
Mais tu me fais déjà plaisir avec le film d'aujourd'hui, hein. Un film pas nul du tout, malgré le casting.
Malgré le casting, ouais. Bah oui, Festival de Cannes oblige aujourd'hui. Eh bien, le film du grenier, il va être de circonstance. Si je te dis que je suis le pape et que j'attends ma sœur, tu me réponds.
Je te réponds que t'arrives à l'aéroport.
Oui, et l'aéroport, c'est dans la Cité de la Peur.
C'est comment? Attends, c'est quoi le prénom déjà? C'est la Ray. Attends,
Odile de Ray.
Odile de Ray.
Oui, oh, mais on va y venir, t'inquiète. On va rappeler tout ça, tous ces bons souvenirs.
Oh, oui.
Donc, la Cité de la Peur, le film de Les Nuls, réalisé par Alain Berberian, qui fête cette année ses 30 ans, puisqu'il est sorti en 1994, avec dans les rôles principaux Chantal Lobby, Alain Chabat, Dominique Farrugia, donc Les Nuls, mais aussi Gérard Darmon. Et puis, sans oublier la liste impressionnante de rôles secondaires et d'apparitions remarquées. Alors, dans les rôles secondaires, on a bien sûr Jean-Pierre Bacri, Eddie Mitchell, Checky Cario, Daniel Gélin, on a Valérie Lemercier, et dans les apparitions, on a Rosanna Arquette et James Cameron, quand même.
Quelle masterclass.
Et si la presse a eu la dent dure à la sortie du film à l'époque, qu'elle a considéré comme une parodie peu digeste, bah ça n'a pas été de même pour le public, hein, qui lui a réservé un accueil triomphal.
Il y a succès eu, populaire. Hein,
bah, il y a eu plus de 2 millions de spectateurs en salle, et le public en a fait instantanément un film culte du cinéma français, entre répliques désormais passées à la postérité, gaga gogo, et début d'une nouvelle l'air aussi pour la comédie française. Il est temps aujourd'hui de revenir sur l'incroyable histoire de la Cité de la Peur, et je ne bluffe pas. Et juste avant, bande annonce.
Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie.
Alors vous allez être content parce que l'année dernière, c'est Nicoletta qui avait votre chambre.
Mais le monde du cinéma est parfois une jungle bien cruelle.
Aïe. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Jusqu'à où on peut-on aller pour promotionniser un film? Jusqu'à le meurtre? Jusqu'à où? Chantal Lobby, Dominique Farrugia, Alain Chabat, mais aussi de vrais acteurs comme Gérard Darmon, dans La Cité de la Peur, une comédie familiale. Le film de Les Nuls vous enchantera par ses dialogues éblouississants.
C'est joli, ça c'est quoi? C'est du cachemire?
C'est du coton.
Ma première voiture, c'était une Peugeot.
Parce que moi, je suis pas vraiment acteur.
Et ses images plus chatoyantes.
Qui monte un bout de pomme de terre sur
Si vous avez aimé Jurassic Park, La Leçon de Piano et Le Fugitif... Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. La Cité de la Peur. Le film de Les Nuls. Sortis-le.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord?
Ça, c'est la réplique culte, hein.
Totalement, ouais. Alors, le pitch du film, qu'est-ce qui se passe dans la Cité de la Peur?
Bonne chance. Hein.
Ça commence le premier jour du Festival de Cannes. On a Odile de Ré, qui est attachée de presse du film d'horreur Red is Dead, et elle est dépitée. La première projection de son film, c'est un flop retentissant. Alors, faut dire que Red is Dead, c'est un véritable nanar. Hein. Il s'agit d'un slasher à tout petit budget, avec des acteurs très mauvais, dans lequel un tueur en série communiste massacre ses victimes, donc des capitalistes, armés d'un marteau et d'une fossile. Et pourtant, bah, malgré tout ça, la vie, elle va finalement sourire à Odile de Ré, hein, puisque, comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et justement, le projectionniste du film, il est assassiné pour de vrai par un tueur qui porte le même costume et utilise les mêmes armes que celui du film, donc il tue avec un marteau et une faucille. Et s'il fait divers et sordide, eh bien, il va attirer l'attention des médias sur Red is Dead, et en plein Festival de Cannes, bah, on peut pas rêver mieux comme publicité. Du coup, Odile de Ré, elle est bien résolue à en profiter, et elle fait donc immédiatement venir Simon Jérémy, l'acteur principal de Red is Dead. Alors, Simon Jérémy, c'est un jeune homme un petit peu simplé, qui vomit quand il est content, qui adore les gencives de porc, et pour le protéger, elle va aussi faire venir un certain Serge Karamazov, un garde du corps un petit peu particulier. Et d'ailleurs, le jour même de l'arrivée des deux hommes à Cannes, eh bien, il y a un deuxième projectionniste qui est assassiné durant une nouvelle projection de Red is Dead. Alors là, c'en est trop, hein, le commissaire Patrick Bialès est chargé de l'enquête pour retrouver le coupable et mettre fin au plus vite à cette série de meurtres. Mais dans la fièvre de Cannes, entre un tueur sans pitié en liberté, un politicien véreux et un commissaire obsédé par son image auprès des médias, eh bien, le trio formé par Odile, Simon et Karamazov va devoir jouer des coudes pour arriver intact jusqu'aux marches du Grand Palais. Et moi, je vous dis, ils sont pas au bout de leur péripétie.
Non, c'est vrai, ça c'est que le début, hein, pour le coup.
Oui, oui, ça c'est que le début.
Oui, c'est vrai que je dois te parler, Laetitia. Et la Cité de la Peur. J'étais concentré dans ce que tu me disais. Et, La Cité de la Peur, c'est un film parodique qui est inspiré du cinéma américain.
Mais oui, t'as raison. Et plus précisément, d'un trio de réalisateurs, scénaristes, producteurs qui sont connus sous le nom du collectif Zaz. Tu connais le collectif Zaz ?
Non.
Tu connais la chanteuse ?
Ouais, je connais là exactement. Ouais, c'est ça.
Alors, le collectif Zaz, il est composé des frères David et Jerry Zucker et de Jim Abrams. Et eux, ils sont considérés vraiment comme les rois de la parodie américaine depuis 1980, année de la sortie de leur premier gros succès, Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Et c'est également à eux qu'on doit par exemple la série de films Y a-t-il un flic ?
Ah oui, ok.
Avec leur acteur fétiche Leslie Nielsen. Et puis on leur doit aussi, ils ont participé aux deux derniers Scary Movie, donc le 3 et le 4. Et l'humour des As en fait se distingue par son côté souvent très très potache, avec des gags qui s'enchaînent à toute berzingue. Et c'est cette recette que vont reprendre les nuls dans La Cité de la Peur, avec aussi une petite touche de Monty Python pour le côté absurde.
Ouais, c'est vrai.
En tout cas, avec La Cité de la Peur, les nuls, ils vont impulser une nouvelle façon de faire de la parodie à la française.
Clairement précurseur de plein de choses qu'on voit maintenant, et notamment un petit peu la bande à Fifi, ça rejoint un petit peu
toute cette bande à Fifi, carrément. Exactement, et la bande à Fifi, juste avant eux, il y avait par exemple eu les humoristes Eric et Ramzy avec la Tour Montparnasse Infernale, et puis KDO,
avec et Robin des Bois aussi,
avec
un petit peu.
Qui a tué Pamela Rose. Vraiment, ils vont impulser du nouveau dans la comédie française.
Bah, parce que aussi Dominique Farrugia, c'est le créateur de Comédie Plus.
Oui.
Et c'est ce qui a fait aussi que beaucoup d'artistes sont arrivés sur le devant de la scène. Il y a aussi Fabrice Eboué, qui ont commencé avec cette chaîne-là, en fait, finalement.
Exactement.
Ouais.
Et ben, c'est un peu ce que là où je voulais en venir. Là, tu me fais une transition toute parfaite, puisqu'il y aura effectivement un avant et un après La Cité de la Peur dans la comédie française. Parce que si jusque-là, les acteurs comiques ils venaient très majoritairement du café-théâtre, comme le Café de la Gare, comme le Splendide, les nuls, eux, c'est le pur produit du petit écran de Canal+, plus précisément. Et c'est d'ailleurs grâce à leur immense succès populaire à l'époque sur la chaîne cryptée qu'ils vont avoir cette opportunité de pouvoir accéder à ce terrain de jeu géant qu'est le cinéma, pour s'en donner à cœur joie et laisser exprimer toute leur créativité. Et ça, comme tu le disais, ça va ouvrir des portes énormes à toute la génération de comiques qui va suivre. Et encore une fois, comme tu l'as dit, il suffit de regarder d'où viennent la plupart de ceux qui nous font rire au cinéma depuis 30 ans pour constater qu'ils sont tous issus de la télé.
Carrément. Alors ça va ouvrir des portes et puis fermer aussi certaines.
Et oui.
Parce que La Cité de la Peur, ça signe un petit peu la fin des nuls.
Bah oui, malheureusement. Parce qu'au moment de la sortie du film en 94, leur émission hebdomadaire, Les Nuls, l'émission, elle est déjà plus à l'antenne depuis 2 ans. On les retrouve à l'époque seulement un petit peu à la radio. Et le film La Cité de la Peur va presque officialiser leur séparation. Même si ensuite, nos trois trublions vont ponctuellement collaborer au cinéma, puisqu'on va les retrouver dans le film Didier en 97, où ils sont tous les trois.
Ah,
aussi
oui,
dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et puis, en ce qui concerne le duo Chabat-Farrugia, on va le retrouver dans le film Re, en 2004.
Oui, aussi.
Et faut surtout pas oublier aussi que c'est à eux qu'on doit l'adaptation en français des dialogues du film Wayne's World. Et franchement, la Suisse avait été magistrale.
En fait, La Cité de la Peur, c'est un petit peu, comme la Tour Montparnasse Infernale. C'est pas des films qui ont beaucoup plu à la critique et à la presse, on va dire, cinématographique. Mais par contre, c'est un vrai succès populaire parce qu'il y a des répliques cultes qui marque le film, en fait.
Et en fait, partout, dans chaque image, t'as un gag, t'as une blague.
Ouais.
Par exemple, au début du film, quand t'as Odile Doré qui sort du cinéma, tu regardes les affiches derrière. Allez revoir le film, quoi, parce que franchement, chaque image vaut le détour, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de références aussi cinématographiques avec des répliques cultes.
Alors des répliques cultes, il y en a à l'appel. Je pense que tout le monde peut en citer une.
Ouais, de ouf.
Je pense que si on va dans la rue, on dit dis-moi une réplique de La Cité de la Peur, on en aura une. Ouais. Il y a Tu bluffes Martoni, il y a Quand je suis content je vomis, il y a On peut tromper une personne 1000 fois, on peut tromper 1000 fois, bref, vous connaissez la suite. Moi, ma préférée, c'est Vous voulez un whisky.
Celle-là, elle est top.
Juste un doigt, vous voulez pas un whisky d'abord, celle-là, c'est vraiment ma préférée, il y a l'embarras du choix.
Je suis un petit peu le relou à l'apéro, moi qui la sors souvent, celle-là.
je pense que t'es pas le seul, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et puis, comme tu disais, c'est un film qui est truffé de références cinématographiques. Il y en a au moins une douzaine, et certaines font partie des scènes cultes, comme la référence à Terminator, à Basic Instinct, à Pretty Woman, à Bodyguard. Et puis, il y a Red is Dead aussi, qui est un film dans le film, et qui fait fortement penser au classique du cinéma d'horreur Evil Dead, puisque son titre y fait un petit peu référence, mais il y a aussi son intrigue et son imagerie qu'on retrouve. Voilà, on retrouve beaucoup d'éléments de Evil Dead, et voilà, bah, rien que pour s'amuser à retrouver tous ces petits clins d'œil et puis revoir toutes ces scènes cultes, eh bien faites-vous plaisir, re-regardez La Cité de la Peur et surtout faites découvrir ce joyau de la comédie française aux plus jeunes.
Ouais, franchement, ouais, y a pas de souci, pareil pour le regarder en famille. Hein,
ouais, alors il y a des blagues qui sont un peu dépassées.
Ouais,
mais je pense que les jeunes.
Mais il est pas tombé dans le has-been encore.
Voilà, c'est ça. Franchement. Il y a des trucs qui sont plus d'actualité, mais ça a quand même bien vieilli.
Où est-ce qu'on peut le voir ce film, Letty ?
Eh ben malheureusement, il est sur aucune plateforme en ce moment.
D'accord. Il est pas sur MyCanal.
On peut seulement le louer.
D'accord.
Mais bon, je pense qu'on a tous quelqu'un qui a un DVD de La Cité de la Peur qui traîne quelque part.
Ouais, normalement.
Et
oui.
Je sais pas, je me dis qu'avec le festival de Cannes, les 30 ans du film, la télé va peut-être le rediffuser, ou les plateformes vont peut-être le remettre en ligne également. Bah, donc en fait, à surveiller.
On le souhaite. Foncez voir La Cité de la Peur. C'était le retour de la chronique de Laetitia, le film du grenier dans Action qui faisait son retour après un mois d'absence. Laetitia, on te retrouve à midi, je crois.
Oui, pour une petite interview, on va parler de la soirée du Café Charmon le vendredi 17 mai. Je vais avoir au téléphone mon oncle Serge.
Ah super, tu interviews ton oncle Serge.
Ouais, je vais vous présenter mon oncle Serge.
C'est sympa. Mais en plus, il est au Café Charmon vendredi. Hein.
Ça tombe bien.
T'as de la chance, Laetitia. Puis nous, on se retrouve à 13h pour les infos, puis on continuera de parler cinéma avec mes invités du jour, c'est Nick Wannon et l'acné. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action.